Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 13 mai 1917, le jour où la Vierge est apparue à Fatima, au Portugal. Le miracle de Fatima s'est déroulé sur le site de la Cova de Iria, à 140 km au nord de Lisbonne, dans un cirque de collines où le connétable Nuno Álvares Pereira pria la Vierge en 1385, à la veille de la bataille d'Ajubarrota, décisive pour l'indépendance portugaise. C'est le 13 mai 1917 que débute le cycle des 6 apparitions mariales à 3 jeunes bergers portugais, Lucie, 10 ans, Francesco, 9 ans, et Jacinta, 7 ans. Ce dimanche de l'Ascension, il voit apparaître sur un petit chêne vert une jeune fille lumineuse qui leur demande de venir le 13 de chaque mois jusqu'au 13 octobre. Elle leur donne un message de prière et d'espérance pour l'Église et le monde alors en guerre. Revenons sur le fil des événements du 13 mai 1917. Après la messe dominicale, les 3 enfants partent vers la Cova de Iria avec leur musette contenant leur modeste repas, pain de maïs, olives et fromage de brebis. Après avoir mangé, les 3 petits bergers récitent le chapelet à genoux sur l'herbe quand un éclair les surprend. Serait-ce un orage soudain ? Par prudence, Lucie invite ses 2 cousins à rentrer chez eux. Ils commencent à descendre avec leur troupeau lorsqu'ils sont saisis par un nouvel éclair. Ils font encore quelques pas et voient sur un petit chêne vert une jeune fille rayonnante qui leur apparaît pour la première fois. Elle est très proche, à 1 mètre à peine. Sa lumière les environne. Elle leur dit « N'ayez pas peur, je suis du ciel. Je suis venu vous demander de venir 6 mois de suite, le 13 de chaque mois, à cette même heure. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. » Elle ajoute « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde » et la fin de la guerre. Puis elle s'élève et disparaît. Lucie décide de taire l'apparition. Mais Jacinta ne peut s'empêcher d'en parler de retour chez elle. Ainsi, le 13 juin 1917, 50 personnes assistent à la 2e apparition. Lucie, inspirée par la présence de la jeune femme illuminée, lui demande de l'emmener au ciel. Elle lui répond « Oui, Jacinta et Francesco, je les prendrai bientôt, mais tu resteras quelque temps, Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, je ne t'abandonnerai jamais, mon cœur immaculé sera toujours ton refuge et le chemin qui te conduira vers Dieu. » Francesco décède le 4 avril 1919, à l'âge de 10 ans, Jacinta meurt le 20 février 1920, âgée de 9 ans, mais Lucie ne parle de cette prédiction qu'après coup. Le 13 juillet 1917, 1 millier de personnes sont présentes. Lucie sollicite alors un miracle pour que tous croient. L'apparition répond en ces termes « En octobre, je dirai qui je suis et ce que je veux et je ferai un miracle pour que tous croient. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et répétez souvent « Ô Jésus, c'est pour ton cœur, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés. » Ici se situe la vision de l'enfer, haute en couleurs symboliques, puisque ce sont des âmes que Lucie voit transparentes, noires ou bronzées, en figures humaines fluctuant dans les flammes avec des démons aux formes horribles et répugnantes d'animaux inconnus, mais transparent et semblable à de noirs charbons embrasés. Cette vision est la première partie du secret de Fatima que Lucie ne révélera que dans son mémoire de 1941 avec la seconde énoncée précédemment. Lors de cette 3e rencontre, l'apparition apprend aux enfants une prière « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer » attirer au ciel toutes les âmes, principalement celles qui en ont le plus besoin. Le 13 août 1917, date du quatrième rendez-vous avec l'apparition, tandis que les trois enfants cheminent en direction de Cova de Iria, Arthur Oliveira Santos, maire de Villanova de Uren et adversaire déclaré des apparitions, oblige les trois jeunes voyants à monter dans sa voiture. Ainsi, il se propose de les conduire sur le site même de leur rencontre avec la Vierge, mais très vite il change de destination malgré les protestations des petits bergers. Il décide de les séquestrer chez lui. Trois jours durant, il leur fait subir des interrogatoires assortis de menaces de mort pour leur arracher le secret. Il les enferme même dans la prison municipale avec les détenus. Les enfants les invitent à prier, puis acceptent de danser avec eux. Arthur Oliveira Santos n'obtient rien. C'est seulement au matin du jour de l'Assomption qu'il ramène les enfants au domicile de leurs parents, non sans leur imposer un ultime interrogatoire. Il manquait ainsi la quatrième apparition. Le dimanche 19 août 1917, après la messe, Lucie, Francisco et Jacinta mènent leur troupeau au Valinos. À mi-pente, l'apparition se manifeste. Elle s'exprime par ces mots « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs ». En septembre, à la date convenue, la foule est considérable. Quelque 25 000 personnes se sont déplacées. À nouveau, Lucie demande l'accomplissement d'un miracle pour que tout le peuple croie. En octobre, je ferai un miracle. Dieu est content de vos sacrifices, répond l'apparition. Le 13 octobre, l'annonce du miracle promis double la foule. Plus de 50 000 personnes sont venues de tout le Portugal en dépit d'une pluie battante. L'apparition demande qu'une chapelle soit érigée. Elle dit enfin son nom, je suis Notre-Dame du Rosaire. Continuez à le dire tous les jours, si le peuple s'amende, la guerre va s'achever. Qu'on n'offense pas davantage notre Seigneur, regardez le soleil. Et au même moment, la pluie cesse, le soleil apparaît, alors comme un disque. Il n'offusque pas la vue et tourne vertigineusement sur lui-même comme une roue de feu. Il semble descendre par trois fois vers l'horizon. Il change de couleur, cela dure une bonne dizaine de minutes. Le miracle du soleil ne répond à aucun phénomène astronomique. Nul observatoire n'a rien noté à ce moment précis, mais il est perçu à une quarantaine de kilomètres à la ronde. Il convertit d'ailleurs plusieurs témoins sceptiques ou hostiles. La presse portugaise relate l'événement, y compris le rédacteur en chef du grand quotidien libéral de Lisbonne, José Culo, qui écrit dans l'édition du 15 octobre 1917 « Le soleil a vu des mouvements brusques, encore jamais constatés, en dehors de toutes les lois cosmiques. Le soleil a dansé, selon l'expression typique des paysans. » 34 ans plus tard, en octobre 1951, Pie XII indique au cardinal Tedeschini, son légat, en partance pour Fatima, qu'il a eu la même vision le 30 octobre 1950. Le pape accomplissait sa promenade habituelle en lisant dans les jardins du Vatican et le soleil, qui était encore assez haut, m'apparut comme un globe opaque, jaune, entouré par un halo lumineux. Il se mouvait en tournant lentement et se déplaçait de gauche à droite et vice-versa. Le même phénomène solaire se répète le lendemain 31 octobre et le 1er novembre 1950, jour où le souverain pontife promulgue le dogme de l'Assomption. Pie XII ajoute « Depuis lors, jamais plus. Plusieurs fois, j'ai essayé, d'autres jours, à la même heure, de regarder vers le soleil si le même phénomène se manifestait, mais en vain, et je ne pouvais le fixer. J'étais ébloui. » Ce qui est beaucoup moins connu du miracle de Fatima, ce sont les apparitions suivantes. En effet, une septième apparition a été annoncée au même endroit que la sixième. Ces apparitions complémentaires ont lieu en Espagne, où Lucie est religieuse. La première date du 10 décembre 1925 à Pontevedra, pour réaliser l'annonce du 13 juillet 1917, « Je viendrai demander la communion réparatrice des premiers samedis ». Ce message invitait à une dévotion que l'évêque de Lierre recommandera à partir du 13 mai 1939, mais sans divulguer l'apparition ou Lucie d'y avoir entendu ces paroles. Tous ceux qui durant 5 mois le premier samedi se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront une partie du rosaire et méditeront pendant un quart d'heure les mystères du rosaire, je leur promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour leur salut. Le 3 octobre 1928, Lucie reçoit une nouvelle communication qui réalise les paroles du 13 juillet 1917. « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. C'est donc 12 années plus tard que l'apparition précise. L'heure est venue où Dieu demande que le Saint-Père fasse, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé pour la sauver. Il y a tant d'âmes qui méritent la condamnation de la justice de Dieu. » Que je viens demander réparation, sacrifiez-vous à cette intention et priez. Ce message parvenu à Pie XII pose des questions. Consacrer la Russie de l'extérieur sans participation des Russes, n'était-ce pas un non-sens? Cela ne serait-il pas pris comme une sorte d'agression? Pie XII a donc nuancé la formule. Le 31 octobre 1942, il prononce une consécration solennelle du monde au cœur immaculé de Marie avec une mention masquée de la Russie qu'il précisera dans des consécrations ultérieures le 7 juillet 1952 et le 31 mai 1954. À partir de 1930, Lucie fait état de 3 apparitions voilées antérieures au 13 mai 1917. En effet, du printemps à l'automne 1916, Lucie dos Santos, Jacinta Marto et son frère Francesco voient 3 fois l'ange de lumière en 2 lieux différents. La première fois, ils entendent ces paroles « Ne craignez pas, priez avec moi ». À la 2e apparition, durant l'été 1916, elle insiste « Priez beaucoup, offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices ». Les enfants font alors préciser cette consigne. Selon les mémoires de Lucie, l'ange a déjà parlé des cœurs de Jésus et de Marie. À la 3e apparition, au début de l'automne, l'ange adore l'Eucharistie, puis donne la communion aux voyants. L'hostie à Lucie, le calice à Jacinta et à Francesco. Prenez et buvez le corps et le sang du Christ, horriblement outragé par des hommes ingrats, consolez votre Dieu. Le 13 mai 1967, le pape Paul VI se rend à Fatima pour célébrer les festivités du 50e anniversaire des apparitions mariales. Il y rencontre Lucie, entrée au Carmel de Coimbra sous le patronyme de Sœur Marie du Cœur Immaculé. Pour l'occasion, il la délie de ses vœux de clôture, mais lui refuse l'entretien qu'elle sollicitait. Le 13 mai 1982, 1 an jour pour jour après l'attentat de la place Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II effectue un pèlerinage à Fatima. Il fait enchâsser dans la statue de la Vierge la balle qui faillit lui coûter la vie. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, 3 livres. Nous écoutons Douce nuit, interprétée à l'orgue par Vincent Rigaud et à la trompette par Benoît Dau. Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un seul livre aujourd'hui, un livre qui concerne un événement sportif récent, le Tour de France 2019. Il s'agit du livre officiel paru aux éditions Solar. Ce bel ouvrage aux photographies remarquables évoque la 106e édition du Tour de France qui part de Bruxelles avec Eddy Merckx comme invité d'honneur pour célébrer le centenaire du maillot jaune. Il est remporté par le jeune coureur colombien Egan Bernal, âgé de 22 ans et 6 mois, vainqueur du Tour de l'Avenir. En 2017, il gagne cette année Paris-Nice et le Tour de Suisse. Il revêt le maillot jaune à Tignes lors de la 19e étape. Le Tour de France 2019 est marqué par les exploits du Français Julian Alaphilippe, qui termine 5e au classement général, avec en prime le trophée de la combativité. Il s'empare du maillot jaune à Épernay au terme de la 3e étape et le conserve longtemps. Un autre Français, Thibaut Pinot, fait belle impression. Il s'impose au sommet du Tourmalet avant d'abandonner. Le classement par équipe revient aux Espagnols de Movistar. Peter Sagan porte pour la 7e fois le maillot vert du classement par points. Enfin, le Français Romain Bardet est sacré meilleur grimpeur. C'est un Tour de France qui connaît de nombreux rebondissements et valorise les richesses du patrimoine avec le franchissement du pont du Gard lors de la 16e étape au Tour de Nîmes. Pour tous les amateurs de la petite reine, je ne peux que recommander la lecture de ce livre officiel du Tour de France 2019 paru aux éditions Solar, qui constitue une très belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Voilà, si s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. Nous nous séparons en musique avec toujours Vincent Rigaud à l'orgue et Benoît Dau à la trompette qui interprète Vive le vent.